c'est tout, cette impression, le mal de gorge, la tête lourde, la fatigue. Je me sentais malade et j'ai quand même été travailler. Je savais qu'il y avait du travail, différentes choses à faire et je ne voulais pas rester chez moi. Et pendant cette journée de mardi au travail, je me suis rendu compte de différentes choses à propos du zèle. J'avais le thème de ce matin en tête, ça me trottait dans la tête, je cherchais encore quelques idées et une introduction. Et pendant toute cette journée, j'ai pensé au zèle. Et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'être zélé quand on n'est pas en forme. Et la seconde, c'est que on doit être zélé dans tous les domaines de son existence. Et je me suis rendu compte qu'au travail aussi, en tant que chrétien, j'avais le devoir d'être zélé. C'est pas seulement quand je suis à l'église que je mets mon sourire de chrétien et que je suis zélé pour présenter une étude ou quoi que ce soit. Non, toute ma vie doit être sous ce même signe du zèle. Et je voudrais vous parler un peu maintenant de ce premier point. Il est plus difficile d'être zélé quand on n'est pas en forme. Alors, il y a effectivement des moments où nous ne sommes pas en forme, pour une raison ou pour l'autre. J'étais malade ce mardi-là. D'autres sont peut-être une fois peu motivés ou bien déprimés. Il y a des gens qui ont des soucis, des déceptions. Il y a tellement de raisons de ne pas être en forme. Il y a des raisons partout. Si on en cherche, on en trouve. Et c'est dans cette situation que le zèle se mesure. C'est dans cette situation que je dois vouloir être zélé. Parce que le zèle ne me tombera pas dessus comme une maladie dans ces cas-là. Il faut être zélé. Oui, bien sûr, j'ai mes engagements. Par exemple, ce mardi, j'ai pensé à cette retraite ici. Mais dans quel état je vais être? Si je suis malade aujourd'hui, demain, si j'ai une grippe, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors ça, c'est un premier point, les engagements à tenir. J'ai des engagements peut-être pour une classe d'enfants le dimanche. J'ai des engagements pour présenter un message, une étude. J'ai des engagements pour diriger une prière. Mais il y a aussi l'engagement simplement d'être là au culte, pour participer, pour rendre gloire à Dieu, pour participer à la vie de l'Église, à la vie du corps de l'Église. Et cette vie du corps de l'Église, nous devons l'avoir en tête, nous devons y penser avec soin et zèle. Lors d'un groupe de discussion hier, nous avons parlé des membres du corps et quelqu'un a nommé le lobe de l'oreille comme le membre dont on ne sait pas ce qu'il a à faire. Eh bien, je crois qu'il a quand même une raison d'être. Même si elle n'est que décorative, c'est important. Imaginez-vous un visage sans lobe de l'oreille. On aura de la peine à reconnaître quelqu'un, peut-être. On se posera des questions. Eh bien, même ce lobe de l'oreille a beaucoup d'importance. Et c'est important qu'il soit là tout le temps. Ça ne va pas si une fois il est là, une fois il n'est pas là, une fois il est là. Non, ce qui compte, c'est que le visage soit tous les jours décoré, garni par ce même lobe de l'oreille et que tout le monde se réjouisse de reconnaître ce lobe de l'oreille dans le visage. Et chacun là a son importance. Personne ne doit penser à « je ne suis qu'un lobe de l'oreille, je ne fais rien ». Non. Peut-être lui justement a tant d'importance pour celui qui vient une fois dans l'église. Et c'est dans ces cas-là que l'endurance est très importante. L'endurance, c'est d'être là avec zèle, d'être là avec persévérance, tout le temps. Pas seulement quand ça me plaît ou quand ça me chante. Et j'aimerais, pour nous motiver à être endurant ou persévérant, lire une parabole dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Luc 8, versets 5 à 15. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est une parabole qui nous est à tous connue. Mais est-ce qu'elle nous était connue sous le sens de la persévérance? Et c'est ça qui me semble tellement important dans cette parabole, comme elle est décrite dans l'évangile de Luc. Nous sommes tous différents types de sols et nous recevons la parole. Que devient cette parole en nous? Est-ce qu'elle porte du fruit ou pas? Et pour qu'elle porte du fruit, nous devons la retenir et avoir de la persévérance. C'est tellement important de travailler avec persévérance. Que peut-il se passer sinon? Des influences de l'extérieur nous prennent, nous saisissent et étouffent la parole. Ou bien alors, nous nous éloignons pour une façon ou d'une autre. Ou alors nous subissons des persécutions et nous laissons tomber la parole. Non, ça ne doit pas arriver de cette façon. Nous devons avoir de la persévérance. Et notre motivation, c'est le fruit. Du fruit au centuple. C'est incroyable quand on y pense. Une telle quantité, une telle abondance de fruits. Et même le lobe de l'oreille peut produire du fruit au centuple, s'il le veut, s'il est persévérant. Et ça doit nous motiver à être zélé dans la persévérance. Quelle est l'importance de ce fruit? Est-ce que nous nous rendons compte de ce que signifie ce fruit? J'aimerais lire un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 8. Jésus dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Oui, le fruit a de l'importance dans le plan de Dieu. Nous avons la possibilité, par la grâce de Dieu, de glorifier Dieu en portant du fruit. Et quand nous portons du fruit, nous sommes aussi les disciples de Jésus. La persévérance est importante. Un zèle sans persévérance est sans valeur. Il faut, jour après jour, renouveler sa persévérance, porter du fruit à nouveau, et cela jusqu'au bout de notre existence. Travailler dans le sens de la parole, porter du fruit. Et un passage m'impressionne toujours, c'est un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, où il est question des conducteurs et de leur fin. Je lis. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Mais justement, vers la fin de la vie, nous commençons à avoir peut-être des souffrances physiques, des soucis, des difficultés de toutes sortes. Et c'est là qu'il devient difficile d'être zélé. C'est là qu'il faut travailler peut-être plus sur soi-même. Et ces conducteurs doivent être nos exemples. Ce sont des gens qui, même dans la difficulté, même en étant fatigués ou à bout de force, ont toujours montré du zèle. Et ça, ça doit nous motiver, ça doit nous aider à avoir ce même zèle. Nous devons les observer, ils sont nos exemples, aussi dans la difficulté. Et à propos de zèle et de persévérance, j'aimerais mentionner deux exemples, Wolfgang et Wolfram. Wolfgang, d'abord, c'était un chrétien que j'ai rencontré il y a peut-être 3-4 ans en Allemagne, à Francfort, dans les retraites, dans une retraite annuelle des églises germanophones. Et c'était une sorte de star. C'était le fraîchement converti qui avait tout abandonné pour l'église. Un zèle absolument inouï, fantastique. Il parlait de sa foi à tout le monde, il allait dans les rues, il allait dans les cafétérias, partout, il parlait de sa foi. C'était impressionnant. Et ça m'a beaucoup impressionné aussi, je dois dire. C'était un exemple de zèle. L'année suivante, il n'était pas à la retraite, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas participé. Et l'année d'après, il n'était plus à l'église. Alors tout ce zèle, toute cette activité, pourquoi ? Pour rien. Il est simplement monté en épi rapidement et ensuite étouffé par je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qui est arrivé à maturité ? Rien. Pas de fruits, rien qui reste aujourd'hui. Et l'autre exemple, c'est Wolfram. Je ne l'ai pas choisi uniquement parce que Wolfgang et Wolfram, ça sonne bien ensemble, mais en fonction d'une histoire qui m'a impressionné. Wolfram, pour ceux qui le connaissent, est beaucoup plus discret. Il est calme, pondéré. Ça nous montre aussi qu'il n'est pas nécessaire d'être agité pour être zélé. Mais il a un zèle solide. Et ce zèle solide, on le voit dans les petites choses. Par exemple, comment apprendre une langue ancienne. Wolfram attache beaucoup d'importance aux langues anciennes, au grec ou à l'hébreu. Et une fois, nous avons parlé de ces langues anciennes. Oui, comment apprendre une langue ancienne? Quelle est l'approche à avoir? Avec quel zèle ou avec quel intérêt peut-on apprendre une de ces langues? Et Wolfram a dit là une phrase qui m'a beaucoup impressionné à ce moment, une phrase pleine de zèle, un zèle visible, un zèle avec engagement et un zèle avec volonté. Il a dit, il faut depuis aujourd'hui et pour l'éternité apprendre, travailler dans cette langue. Et ça m'a impressionné, depuis aujourd'hui et pour l'éternité. Il y a une volonté là derrière. Et je pense qu'il le fait aussi. Évidemment, si on le dit seulement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais quand on sait qu'il dit, on peut mesurer aussi la valeur des mots. Et ça, c'est très encourageant. Ça, c'est un signe de persévérance. Ça, c'est un signe de longue durée. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement de quantité, de travailler 2 heures par jour avec une espèce de rage. Non, c'est un travail petit à petit, un travail de qualité. Et c'est ça qui compte. Un travail de qualité sur la durée, un travail qui porte du fruit. Et peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, quelqu'un qui applique cette façon d'apprendre une langue pourra la parler. Peut-être que ça prendra 15 ans. Mais avec la régularité, le fruit sera là. Et il ne faudra pas arrêter ensuite de travailler cette langue. Non. Pour toute sa vie, il faudra le faire. Sinon, on va oublier. Et c'est en entendant ces gens lire dans cette langue qu'on se rend compte du fruit qu'il y a. quand on entend Wolfram lire en grec ancien, il y a du travail. On voit le travail, on voit l'effort d'endurance, on voit le zèle qu'il y a derrière. Et dans ces petites choses, on remarque énormément. Et pour nous, c'est la même chose. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes les activités que nous faisons, nous pouvons travailler avec ce même zèle. Un travail de qualité, un travail de longue durée. Dans notre participation à la vie de l'Église, dans nos préparations, dans tout ce que nous faisons, avoir du zèle avec persévérance. Et ça, aussi, quand nous sommes déprimés, quand nous avons de la peine pour une raison ou l'autre, quand nous sommes surchargés de travail ou quelle que soit la raison, avec persévérance. Et j'aimerais maintenant revenir au deuxième point de mon introduction, que le zèle est important dans tous les aspects de l'existence, pas seulement à l'Église. Et ça, c'est une chose que nous ne devons pas oublier non plus. Nous avons un seul visage, nous sommes une seule personne, une seule personnalité. Pas une personnalité qui a un masque à l'Église et un masque au travail ou un masque dans la famille. Non, nous sommes une personne. Et aussi dans le monde, dans notre place de travail, nous pouvons être zélés, nous devons même être zélés. Et pourquoi ? Pour donner un bon témoignage, pour recevoir un bon témoignage du monde. Est-ce que c'est important d'avoir un bon témoignage du monde ? Dans certains cas, ça l'est. Et ça l'est même dans des cas très importants, quand il s'agit de choisir qui est apte à devenir ancien. Et pour devenir ancien, il faut avoir un bon témoignage du monde, comme nous le dit Paul dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, verset 7. Il faut aussi qu'il, donc, l'ancien ou l'évêque, reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Et quelqu'un qui n'est pas zélé à sa place de travail ne recevra certainement pas un bon témoignage. Mais il y a plus que ça. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon témoignage de l'extérieur. Oui, c'est un employé zélé. Non, c'est aussi une question de conscience. Nous devons avoir un rôle, un état d'esprit zélé. Et je le tire de Colossiens, de l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 17. Où nous lisons, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Oui, quoi que nous fassions, au nom du Seigneur Jésus. Et ça, c'est important. Le zèle que j'ai à ma place de travail, pourquoi je l'ai ? Parce que je suis ambitieux ? Parce que je veux faire aussi bien que mes camarades ? Non. C'est parce que je veux travailler au travail, à ma place de travail, comme si je travaillais ou en travaillant pour le Seigneur. Et ce n'est pas une forme extérieure d'activité, non, c'est aussi un signe de zèle chrétien. Et ça m'a frappé aussi ce fameux mardi. Pour finir, je suis resté jusqu'à minuit et demi au bureau. Et c'était une longue journée. Mais mon zèle était nécessaire. Mon zèle était nécessaire. Et une pensée qui m'est venue aussi ce mardi, je n'étais pas seul à rester aussi tard au bureau. Nous étions trois. Mais mes deux camarades n'avaient aucun intérêt ou que très peu d'intérêt pour la foi. Pourquoi sont-ils restés ? Par ambition ? Par devoir professionnel ? Ou pour X raisons ? Peut-être, je ne le sais pas. Moi, je suis resté parce que je voulais être zélé comme pour le Seigneur. Eh bien, est-ce que Dieu fait une différence entre ces comportements ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça sert à quelque chose que je sois zélé à ma place de travail ? Est-ce que Dieu le voit et en tient compte ? Oui, je pense que c'est très important. Dieu regarde les cœurs. De l'extérieur, trois personnes sont restées tard le soir au travail. Mais est-ce que ces trois personnes avaient le même cœur? Non. Des approches très différentes. Et Dieu regarde les cœurs et pas l'extérieur. Est-ce qu'un non-chrétien peut produire du fruit à la gloire de Dieu, peut être zélé à la gloire de Dieu? Non. Si nous lisons dans l'Épître aux Romains, au verset 6, les versets 21 et 22, là, Paul parle des chrétiens à Rome et leur demande comment ils étaient avant de se convertir. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Deux cœurs totalement différents. Bien que de l'extérieur, ce soit la même chose. J'ai comparé le chrétien à une voiture hier matin. Une voiture qui roule, en espérant dans la bonne direction, et une voiture qui repose sur quatre pneus. J'ai nommé ces quatre aspects des pneus. C'est les quatre thèmes des études que nous avons eues: la connaissance, la disponibilité, le courage et l'endurance. Et ces quatre pneus doivent être bien gonflés, doivent être en bon état. Et si ces quatre pneus sont là, alors la voiture peut rouler vite et dans la bonne direction sur cette route. Je voudrais encore mentionner le moteur. Et le moteur, je crois que c'est quelque chose qui est apparu très clairement dans toutes nos discussions. Le moteur pour notre zèle, c'est l'amour pour Dieu et pour les hommes. C'est lui qui nous fait avancer. C'est lui qui nous pousse à aller vers le prochain pour lui parler de Dieu. C'est lui qui nous pousse à acquérir plus de connaissances de Dieu. C'est lui qui nous pousse à être endurant. C'est lui qui nous pousse à être disponible dans le corps de l'Église. Et si nous avons un moteur puissant, beaucoup d'amour, alors nous roulerons vite et nous porterons beaucoup de fruits pour Dieu, pour sa gloire. Et Dieu a tant du zèle de notre part. Il attend de nous que nous roulions vite. Il nous donne les moyens de le faire. Il nous donne sa parole. Il a versé son amour dans nos cœurs. Nous avons un devoir vis-à-vis de lui, une responsabilité. Et nous avons cette responsabilité parce que Dieu nous a donné ceci en cadeau. C'est sa grâce. Nous n'avons pas mérité quoi que ce soit. Dieu nous rend capables de le servir, de porter du fruit à sa gloire. Et c'est une responsabilité de le faire. Que se serait-il passé si nous n'étions pas sauvés, si nous étions toujours dans nos péchés, dans le mal? Nous serions condamnés à la perdition éternelle, à la mort spirituelle. C'est une pensée horrible. Une pensée horrible et une pensée qui doit nous rendre aussi plus sensibles à ce que nous avons maintenant. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce même de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et cette responsabilité, j'aimerais que nous la prenions avec nous en partant d'ici. Nous avons la responsabilité d'être zélés envers Dieu. Et j'aimerais terminer avec ce passage qui nous montre cette responsabilité très clairement dans l'épître de Tite. Ce passage qui nous dit, oui, chaque chrétien a la responsabilité d'être zélé. Dans l'épître de Tite, au chapitre 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous. Il s'agit de Jésus. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Oui, c'est le but que Jésus nous fixe, zélé pour les bonnes œuvres. C'est une responsabilité que nous avons les moyens de l'être et nous savons comment le faire grâce à Dieu. Alors, en partant d'ici, nous voulons avoir cette intention d'être zélé partout où nous sommes, d'être zélé pour les bonnes œuvres et pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Amen.